carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Bonjour, Canal Académie a le grand plaisir de recevoir dans cette émission Au carrefour des arts, un artiste peintre atypique qui réunit en lui la synergie de trois personnalités, on peut dire triple identité, Kim Enjong. Bonjour Kim Enjong.
Bonjour madame.
Kim Enjong, vous présentez donc cette triple identité, coréen, artiste peintre et religieux dominicain. Des peintres coréens, a-t-on écrit, il y en a, il y en aura encore. Des religieux catholiques coréens, il y en a depuis Kim Dae-kun, je ne sais pas si je prononce très bien, ordonné prêtre à 23 ans, arrivé à Séoul en 1836, décapité 10 ans plus tard. Mais des peintres coréens dominicains, il n'y en a qu'un seul, et c'est vous, Père Kim Enjong, baptisé en 1967. Vous aviez quel âge ?
J'avais 27 ans.
27 ans. Comment vous appelle-t-on habituellement, Père Kim, Kim Enjong, votre nom d'artiste, comment ?
Le Père Kim tout court, c'est suffit.
Est-ce qu'en coréen, Kim Enjong a une signification particulière ?
Oui, Kim, c'est le nom de famille, Enjong, c'est prénom, mais dans la culture asiatique, on ne l'appelle pas le prénom, parce que appeler prénom, ce n'est pas habituel.
Ce n'est pas habituel, donc on appelle par le nom de famille.
Nom de famille ou bien le titre, professeur ou le maître, oui. Même mon père ne m'appelle pas mon prénom, mais il dit simplement père aussi.
Il vous appelle père également,
oui.
Votre propre père.
Oui, parce que pour respecter mon nom, puisque je suis adulte, n'est-ce pas ? Alors, surtout, s'il y a mes neveux et des plus jeunes, entendre mon nom, ça leur gêne.
Donc, il vous appelle par votre fonction, père ?
Oui, si vous voulez, oui.
Par votre statut religieux ?
Oui.
Alors, Père Kim, vous êtes venu devant les micros de Canal Académie en compagnie de deux personnes qui vous connaissent depuis des années, qui soutiennent votre travail, Nicolas Jancède. Nicolas Jancède, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes co-directeur des éditions du Cerf et dominicain, comme le Père Kim.
Précisément, oui.
Votre première rencontre avec le Père Kim, vous avez
Alors,
une date en tête ?
Oui, mais la première rencontre, il ne m'a pas vu. Moi, je l'ai vu. La première rencontre, j'étais de passage dans son couvent, le couvent du Faubourg Saint-Honoré. Et j'ai été invité au repas où il y avait bon nombre de frères. Et après le repas, quelqu'un m'a dit « Oh, venez, le père Régamé, qui était l'un des instigateurs, un des fondateurs de la revue de l'art sacré et l'un des aspirateurs du mouvement, à l'instar du père Alain-Marie Couturier. Le père Régamé est venu voir un certain nombre d'œuvres du père Kim Enjong. » Et donc, j'ai suivi le mouvement. Et ma première rencontre avec le père Kim, c'était au moment où il présentait ses œuvres au père Régamé. Et je me souviens de non seulement des œuvres du père Kim, mais aussi de leur découverte par le père Régamé, qui en plus, on peut le dire, était non seulement très exigeant, mais il l'était avec un caractère qui pouvait être éprouvant lorsque ses exigences n'étaient pas satisfaites.
Et là, ce jour-là, sa réaction devant les œuvres.
Et sa réaction a été très impressionnée, très fortement impressionnée. Il ne s'est pas livré à des compliments, mais je me souviens à quel point il était impressionné. C'est quelque temps après que, à l'occasion d'un autre repas dans le même lieu, j'ai pu parler avec le père Kim et que nous avons commencé de nous entretenir. Ces entretiens ont donné lieu à un premier petit livre qui s'appelle « Fragments d'un monde nouveau » avec la présentation de quelques œuvres. Et si je mentionne ce petit livre, c'est qu'il tourne en même temps, du point de vue du texte, autour d'un texte de Julien Green, qui a été un des membres de cette maison.
Donc une grande fidélité de la part du Père Kim avec les éditions du Cerf et réciproquement.
Alors, une grande fidélité du Père Kim avec les éditions du Cerf, parce qu'actuellement, je pense qu'il serait très sollicité par beaucoup d'autres maisons d'édition pour publier des livres, mais une amitié, je n'ai pas besoin de faire d'efforts de fidélité avec le Père Kim, parce que la joie et le plaisir sont là, mais nous nous voyons régulièrement, et sur certains chantiers, lorsque les éditions du Cerf peuvent apporter leur contribution au Père Kim, nous le faisons avec joie. Nous ne le faisons pas seulement de manière par sympathie ou affection. Nous le faisons aussi parce que le mouvement de l'art sacré et la revue de l'art sacré fait partie de l'histoire des éditions du CERF depuis les années 30. Dans les années 90, le livre d'art, le beau livre, a été quelque peu sinistré sur le marché. Et donc, les éditions du CERF avaient du mal à formuler un programme qui serait systématique et méthodique. Mais par fidélité à cette tradition de l'art sacré aux éditions du CERF, chaque fois que nous pouvions faire quelque chose, nous l'avons fait. Alors, nous l'avons fait avec le Père Kib, nous l'avons fait avec d'autres entreprises d'édition d'art. Et ce qui a commencé petitement donne maintenant quelques très beaux livres.
Nous en parlerons tout à l'heure, nous les présenterons
De peinture, de lithogravure, on en parlera. Et donc, mais maintenant, c'est une histoire qui a bientôt 20 ans et qui est une collaboration qui nous apporte beaucoup de joie.
Alors, à vos côtés, justement, Nicolas Jancède, Jean-François Lagier, qui est directeur de ce centre que vous évoquiez il y a un instant, le Centre international du vitrail. Jean-François Lagier, bonjour.
Bonjour.
Alors, votre première rencontre également avec le Père Kim ?
Eh bien, notre première rencontre, évidemment, elle se situe à Chartres, parce que à Chartres, c'est à la fois une référence et puis c'est aussi un aboutissement. Dans le voyage du Père Kim, c'est se tourner vers l'Occident, qui est tout à fait exemplaire et unique, parce qu'on connaît des artistes qui ont fait leur chemin spirituel vers l'Orient. C'est plutôt une figure assez convenue. Là, c'est le contraire. C'est un artiste extrême oriental qui fait son chemin spirituel vers l'Occident. Et le point d'aboutissement de ce chemin vers l'Occident, évidemment, c'est Chartres. Alors Chartres, pour bien des raisons, mais aussi parce qu'il y a une école chartraine de la lumière qui va attirer encore plus le père Kim Enjong, puisque de sa peinture, il va aller vers... je dirais presque l'aboutissement de la peinture sur toile, qui est cette peinture de lumière, la couleur lumineuse qu'on utilise excellemment avec le vitrail. L'école chartraine de la lumière ne résulte pas seulement de l'évocation d'un passé révolu qui serait nostalgique, mais d'une expérience bien actuelle, guidée par l'actualisation de ce mystère de la lumière. Je dirais, on vient à Chartres pour apprendre le vitrail et son installation dans les bâtiments. Les techniques anciennes et modernes s'y côtoient, en particulier au Centre du Vitrail, où nous montrons toute cette évolution des nouveaux moyens d'expression pour les artistes. Les expositions font connaître les créations des artistes d'aujourd'hui et des différents pays, nos rencontres également. Mais on vient aussi à Chartres pour accueillir l'instant de la création. Ça, c'est encore plus important. Tant de beauté installée au cours du temps ne peut que susciter un désir de poursuivre l'aventure et de créer encore. Il y a ces lieux d'hospitalité où la force de l'accueil transforme l'hôte accueilli et créé en hôte accueillant et créateur, pour comprendre finalement comment naît la création. Alors on vient aussi à Chartres pour se ressourcer, pour s'inscrire dans la chaîne de ses prédécesseurs, et puis résonner à leurs multiples sollicitations esthétiques et spirituelles. C'est cela un petit peu le message de cette couleur lumineuse de Chartres.
Parlez-nous maintenant de cette expérience à Brioude, menée également en collaboration avec ce Centre international du vitrail.
Alors Brioude, c'est un chantier très important, c'est une basilique immense, superbe, qui n'avait pas de vitraux.
Qui se situe en Auvergne, je crois.
En Auvergne, oui, c'est ça, peu au sud de Clermont-Ferrand.
Et qui se situe sur le chemin même de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Oui, c'est cela. Alors le projet de ces vitraux a été porté par la municipalité qui est propriétaire de l'édifice. Un concours international a eu lieu, a été organisé pour, dans un premier temps, sélectionner 3 équipes d'artistes et de maîtres verriers. Et puis finalement pour donner au père Kim Enjong la mission de réaliser ces vitraux dans cette église, dans cette basilique, qui a cette caractéristique étonnante de comporter une quantité très importante de peinture murale. Alors la difficulté pour le créateur de vitraux, c'est de pouvoir trouver un aménagement de cette lumière, une ambiance lumineuse qui soit une valorisation, une exaltation de la puissance, de la signification de l'édifice, et sans éteindre ces peintures murales. Voilà quel était le propos très ambitieux, très difficile, qui a été donné à l'artiste.
Brioude, un magnifique chef-d'œuvre de l'art roman, avec une polychromie. Qui vous a interpellé, Père Kim, cette polychromie, ce mariage de la couleur, déjà dans les pierres?
Vous savez, au début, j'étais tellement impressionné par la grandeur de l'édifice. Et en même temps, le passé, j'étais complètement découragé. Et j'étais bien sûr très content, mais... Et un petit artiste comme moi, comment pourrais-je assumer ce travail? Et après, ce qui m'a sauvé, c'était le Christ lépreux. Là, j'ai prié beaucoup devant ce Christ lépreux. Et après, petit à petit, je pouvais apprivoiser le bâtiment. Lorsque les gens m'ont dit « Comment vous avez fait le reflet si beau ?» Et là, franchement, je n'avais pas y pensé. Parce que déjà, arriver à faire le vitrail, c'est un travail immense. Alors comment je pouvais savoir le reflet? Je crois même si j'étais Leonardo da Vinci, j'aurais pu calculer cela parce que chaque instant, la lumière change comme notre vie. Alors par là, j'ai compris aussi qu'est-ce que c'est la grâce. C'est vraiment une grâce. Et quand j'ai installé le premier vitrail, en arrivant, je n'ai pas osé lever la tête. J'avais tellement craintif. Mais quand j'ai levé la tête, je me suis dit, ça y est. Ça veut dire que mon vitrail a effacé 1000 ans de différence. 1000 ans est comme un jour. Et la beauté, c'est quelque chose qui dépasse le temps et l'espace. À partir de ce moment, j'ai pris le courage. Et puis j'ai prié. Et finalement, comme Matisse a avoué moi aussi, ce travail, ce n'est pas moi qui ai fait, mais il y avait une force de là-haut qui m'a poussé.
D'une émotion toute personnelle, d'une émotion spirituelle, s'ouvrent les voies de la lumière, s'ouvrent les voies de la création pour vous, mon père.
Ah, sûrement.
Pourtant, c'est un pourtant qui sonne un peu durement, mais pourtant vous vous inscrivez dans un art abstrait et vous arrivez avec, comme vous le disiez, vos couleurs de notre siècle, vos couleurs en tant qu'homme inscrit dans ce 21e siècle. Et c'est cette passation, cette transition dont vous nous parliez il y a un instant.
J'espère parce que, comme on dit, la raison est le pire guide.
Moi, c'est l'émotion.
Je suis l'inspiration.
L'inspiration.
La sensation. Et aussi, pour mon art, doit être vraiment pour la libération intérieure. Parce que des ténèbres à la lumière, c'est toujours moi-même, je trace mon chemin. Et également, on dit l'abstrait, toujours le langage humain n'est pas suffisant pour exprimer quelque chose, mais ce n'est pas du tout abstrait.
Alors justement, messieurs, un petit mot, une conversation autour de cette notion de l'art profane et de l'art sacré. Quand peut-on dire qu'une œuvre fait partie de l'art sacré?
Peut-être qu'avant de vous répondre, je voudrais, sur ce que nous venons d'entendre, Jean-François Lagier et du Père Kim, dire qu'à Brioude, il y a eu non seulement le talent, l'inspiration du Père Kim, mais un petit peu en amont, le courage de la mairie de Brioude et de son conseil municipal qui se sont lancés dans une aventure par après. Lorsque le succès est là, le maire et son conseil ont confié ce qu'ont été leurs difficultés, leurs tergiversations par rapport à un tel monument. Et donc, ils ont été très courageux. La chance qu'ils ont eue d'avoir l'idée de contacter le Centre international du vitrail pour savoir comment s'y prendre, pour approcher des artistes et, sur le conseil de M. Lagier, de créer un concours. Et un concours qui faisait se rencontrer un artiste et un atelier de Maître Verrier. Donc c'était l'atelier Loire et le Père Kim, là en l'occurrence. Et un architecte qui a eu l'intuition que cette architecture dont on n'avait que les vitraux un peu blanchâtres, qui donnaient une pierre un peu sans couleur, que cette architecture était faite pour vivre de couleur, M. Stefanescu. Et la rencontre, tout ce monde-là, a donné certainement un des deux, trois projets les plus audacieux en France du XXe siècle et les plus importants. Et c'est ça qui permet aussi de répondre à votre question, art sacré ou art profane, art abstrait ou art d'iconographie. D'abord, je pense que l'art, c'est l'art. Pour faciliter à la compréhension des gens, je crois qu'il faut distinguer trois choses. l'iconographie, les icônes, comme ce qu'on voit dans le monde byzantin. Ce n'est pas d'abord de l'art, c'est d'abord de l'écriture, du commentaire de texte par le dessin de l'évangile en fonction des canons. Il faut distinguer deuxièmement quelque chose. Alors, ça peut être très artistique, mais ce n'est pas nécessairement d'abord de l'art, c'est de l'écriture et du commentaire de texte. Ensuite, il y a de l'art thématique, toute notre tradition occidentale de représentation des thèmes bibliques, des scènes bibliques. Alors, ça peut être d'un très grand art qui s'applique à des thèmes bibliques. Pensez à tous nos classiques de la Renaissance. Et puis, il y a l'art pour lui-même, l'art abstrait étant une des dernières manifestations de l'art. Mais il y a des arts très antiques qui sont aussi abstraits que l'art abstrait contemporain et qui n'ont pas le souci ni d'être thématiques, ni d'être iconographiques. Et c'est là qu'intervient l'art du père Kim. Et le père Couturier écrivait dans ses notes, dans ses journaux, on les a réédités avec des préfaces du père Kim, parce que le père Kim a une dévotion pour le père Couturier qui inspirait l'art sacré. Et il disait, je le cite, « Pour qu'une œuvre soit religieuse, il faut qu'elle ait été faite religieusement. Dès qu'on fait le malin, dès qu'on sait comment ça se fait, le charme est rompu. Dès que le sentiment religieux devient style, manière, il perd sa valeur d'expression religieuse, sa valeur de communication, de transmission de l'émotion religieuse. » C'était ce que disait le père Couturier. Et il le disait lorsqu'il a fait la chapelle du plateau d'Assis. Et l'enjeu n'est pas la question de savoir si c'est un art abstrait, mais ce qui se passe dans cet art, tout simplement.
Je cite le père Kim, « l'ouverture la plus grande possible au mystère ». Mystère, c'est un mot qui revient beaucoup.
Oui.
Expliquez-nous.
La Sainte Trinité existait depuis toujours. Alors pour moi, c'est toujours demeuré au sein de la Sainte Trinité. Et c'est ma maison et à la fois ma lumière en tout. Donc, en contemplant au mystère de la Sainte Trinité, j'essaie de dissiper les nuages épais, ouvrir vers la lumière. Donc, et mon art doit, quelque chose comme la prophétie d'Isaïe, et déchirer le ciel, essayer de faire l'échelle de Jacob. Monte pour la contemplation, descente pour l'humilité.
Je vous cite encore, Père Kim, c'est dans la vibration de la couleur que doit apparaître ce qui ne peut jamais être représenté. C'est votre travail, c'est votre mission, de donner à votre contemporain une émotion.
Non, surtout, je ne voudrais pas réduire. Le Père a très bien exprimé trois choses maintenant. Et même si je monte au ciel sur l'écran de la télévision, personne ne sera étonné. Mais il y a 20 ans ou 30 ans, et on croirait que c'est un miracle. Alors, de plus en plus, je reste à la chose cachée. Et donc, mon travail doit être un parcelle de paradis.
Jean-François Lagier, donc, pour les auditeurs de Canal Académie, on va citer la parution aux éditions du Cerf de ce magnifique ouvrage, Brioux, de la basilique Saint-Julien, dans la lumière de Kim Enjong, qui est donc sorti en 2009, et également Kim Enjong, Vitraux, toujours aux éditions du Cerf, qui est un fabuleux ouvrage, un ouvrage colossal, qui a été élaboré avec la collaboration du Centre international du vitrail, de votre centre.
Oui, c'est un ouvrage qui a été publié en accompagnement de l'exposition présentée au Centre du vitrail, où nous montrons plus d'une soixantaine de vitraux du Père Kim dans une grande salle gothique près de la cathédrale de Chartres.
Une exposition permanente ?
C'est une exposition qui restera jusqu'à la fin de l'année 2010.
Parfait, donc le rendez-vous est pris. Et les ouvrages aux éditions du Cerf viennent d'être mentionnés et ce sont vraiment de somptueux ouvrages. Alors, dans le dernier, Kim Enjong Vitraux, c'est une représentation donc des œuvres sur vitraux du père Kim, mais également tout un parcours, Nicolas Jansède.
C'est une rétrospective.
Oui, c'est une.
Tous les lieux où le père Kim a fait œuvre, le Centre international du vitrail a fait une campagne de photos sur l'ensemble des sites, a présenté chacun des sites et, en écho à chacun des sites, a donné dans l'exposition le type ou le style de vitrail qui a été donné dans chacun des sites par le Père Kim.
Donc, c'est la première, une grande rétrospective par rapport aux vitraux.
Il faut voyager à travers toute l'Europe pour voir les types de vitraux qu'a fait le Père Kim.
Alors, on peut citer comme ça des noms de capitales.
Ça va de Dublin, ça va à Dax, ça va, on a parlé de Brie.
Ça commence par Évry, par la cathédrale d'Évry, et ça finit presque par la cathédrale de Chartres, même si maintenant, il y a encore d'autres chantiers en cours.
En vous promenant donc, un peu partout en Europe.
Non seulement l'Europe, mais dans l'avenir, probablement jusqu'en Amérique latine. Et pourquoi pas en Russie également, parce que l'année prochaine, j'ai un projet d'une grande exposition et au Musée national de Saint-Pétersbourg.
Nicolas Janset.
Vous me permettez, s'il vous plaît, d'ajouter quelque chose sur ce livre,
ah, mais je vous en prie.
Qui a été une découverte personnelle. Mais je le savais, mais de le voir comme ça de manière continue, c'est de voir comment le Père Kim, pour peindre des vitraux, habite le lieu et sa vocation. Et donc les vitraux de la grande université polytechnique à Dublin n'ont rien à voir comme style avec les vitraux du monastère des moniales dominicaines de Dax dans leur chapelle, ou même des vitraux des moines de Ganyagobi. D'une certaine manière, lorsque vous voyez ces vitraux dans la suite et que vous lisez la vocation du lieu, de la même façon que lorsque vous les voyez au Centre international du vitrail, vous vous apercevez que le Père Kim, d'une certaine manière, sa contemplation est aussi, j'allais dire, l'interprétation de la vocation du lieu qu'il a sollicité.
Alors comment faites-vous, Père?
C'est pour ça que l'on peut parler, je crois, d'art sacré. Il s'agit bien de la transformation d'un phénomène naturel en un phénomène spirituel. La couleur lumineuse transforme, met en visibilité un phénomène spirituel. C'est recevoir la lumière dans un espace intérieur. C'était la grande aventure du Moyen-Âge dans l'architecture, accueillir la lumière dans l'architecture. Faire que l'architecture permette la réception de la lumière pour produire une illumination très désirée au Moyen-Âge, mais aujourd'hui aussi dans le droit fil de cette recherche spirituelle.
Mais pour moi, surtout étant religieux, je dois absolument respecter le lieu, surtout au niveau architectural. Parce que j'ai vu quelquefois, soi-disant, les grands artistes qui ont imposé leur art dans telle église, ça m'a beaucoup gêné. Parce que le vitrail, c'est l'œil d'une église. Le vitrail, c'est l'œil d'une église. Donc, il faut entrer et pour rester discrètement, lumineusement, non pas imposer. Parce que même à la table très harmonieuse, et quelqu'un arrive brutalement, ça gêne tout le monde. C'est le même effet.
Mais c'est tout de même une sorte de révolution que vous apportez avec votre art. C'est une démarche tout à fait nouvelle.
Oui, finalement, j'ai essayé de travailler tout le temps. Même j'avoue que ce matin, je me suis levé à 4 heures pour commencer la journée. C'est comme on dit, il paraît que André Malraux a travaillé le jour et la nuit. Et Matisse, tout le temps. Je suis l'exemple de Matisse. Et aussi, on dit, quand on a du talent, il faut beaucoup travailler. Quand on n'en a pas, il faut encore plus. Mais pour moi, ni l'un ni l'autre, donc je dois travailler encore plus. C'est mon seul secret. Et surtout, ce que j'ai beaucoup aimé cette fois-ci, la manière dont on a installé mon travail au Centre international de vitrail, j'étais vraiment impressionné. Je suis devenu même très timide.
Est-ce qu'on peut dire, Père Kim, que votre inspiration est alimentée en droite ligne par votre foi?
Si. Parce que je ne sais pas prier. Je crois que personne ne sait prier. Si je dis je prie bien, j'ai déjà mal prié. Pour ça, j'aime beaucoup mettre les cartes. Et je pense, quand j'ai la volonté, ça vient. C'est là où il y a le grand mystère qui travaille. Je ne suis qu'un pauvre instrument, rien d'autre.
Oui, mais un instrument qui a la mission de se mettre en résonance avec le mystère dont vous nous parliez.
Sûrement. Parce que déjà, encore, il y a des gens qui me demandent tout le temps, est-ce que vous êtes d'abord prêtre ou vous êtes artiste? Maintenant, j'en ai assez de...
D'entendre ce genre de réflexion.
Oui, alors pour moi, je dirais, comme le mystère de la Sainte Trinité, pour moi, c'est ce qui est important, c'est un.
Alors, pourquoi avez-vous choisi l'ordre des Dominicains? Ça a été le jeu de rencontres. Pourquoi avoir voulu installer votre foi à l'intérieur de cet ordre?
C'est une très bonne question. En réalité, quand j'étais baptisé, mon rêve, c'était devenir comme curé d'Ars. Et parmi tous les prêtres, mon préféré, c'est curé d'Ars. Parce qu'il a tant souffert. Je suis venu en Europe, soit devenir prêtre, soit poursuivre ma voie artistique. Mais je suis touché par la grâce. C'est tout simplement, je peux répondre ainsi. Parce que quand j'étais en Corée, je ne savais pas qui était Saint-Dominique. Je savais qu'il y a Santo Domingo. Mais je ne savais pas...
Quelle était l'histoire de Saint-Dominique? En quelques mots, Nicolas Jancette, vous pourriez nous rappeler qui est Saint-Dominique et qu'est-ce que votre ordre lui doit?
Oh, je crois qu'il était surtout quelqu'un sur les routes. Et c'est parce que le père Kim a pris la route qu'il devait rencontrer Saint-Dominique. C'est surtout ça. Au Moyen-Âge, à un moment où l'Église était très installée, à un moment où elle essayait de réguler la chrétienté, ses dissensions, ses dérives, par l'autorité, voire par la force, Saint-Dominique s'est convaincu que ces arguments-là ne seraient jamais ni efficaces ni convaincants, et il a à ce moment-là créé un ordre de la prédication, de la sainte prédication, fondé non pas sur la hiérarchie, mais sur la fraternité, sur la démocratie de communion et de consensus, qui n'est pas la démocratie de rapport de force. C'est pour ça que je précise, c'est un autre type de démocratie. Et sur la spiritualité de l'étude.
À quelle époque, vous l'aviez indiqué?
13e. On va d'ailleurs fêter ces prochaines années le 8e centenaire de l'ordre, la fondation du premier monastère de Monia La Prouille en 1211 ou 1213, je ne suis pas très bon pour les dates, je ne m'attendais pas à votre question, et la fondation du premier couvent des frères à Toulouse en 1215, là j'en suis sûr.
Est-ce qu'il y a une phrase concernant l'éthique, concernant la philosophie de cet ordre?
Oh, oui, il y en a une, sur Canal Académie, je peux la dire en latin d'abord.
Mais je vous en prie.
Alis contemplata tradere, c'est-à-dire transmettre, mais transmettre au sens fort du terme, c'était tradere en latin, c'est transmettre en se donnant. Donc transmettre aux autres ce qu'on a contemplé.
Magnifique, c'est une phrase qui vous va tout à fait bien, Père Kim.
Le Père Kim la connaît et je ne pense pas qu'il va démentir.
On m'a dit, ce que tu peins dans l'atelier apporte aux autres.
Oui. Tout à fait. Alors, dites-moi, comment est-ce que cela fonctionne à l'intérieur d'un ordre religieux tel que l'ordre de Saint-Dominique, des Dominicains? Est-ce que vous êtes détaché pour pouvoir assumer les missions professionnelles qui sont les vôtres en ce moment, vos éditions du CERF, Nicolas Jancette, et le Père Kim, avec tout ce travail et ces énormes chantiers maintenant auxquels il va devoir faire face en Europe et dans le monde entier?
Alors vous demandez comment ça fonctionne.
Comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes détaché de cet ordre?
D'abord, je vais vous dire que ça fonctionne mal, mais c'est pour ça que c'est fécond. Alors, la tradition dominicaine, c'est que le vœu essentiel que l'on prononce lorsqu'on est admis dans l'ordre est le vœu d'obéissance. Mais dans la tradition dominicaine, comme je pense que c'est dans la tradition de toute l'Église, l'obéissance, c'est le contraire de la soumission. La soumission consiste à se soumettre à un autre, à sa volonté, dans un rapport de force. L'obéissance, je vais donner une définition simple, c'est la rencontre de deux volontés libres qui s'objectivent dans le service du tiers. C'est-à-dire, la maturité ne consiste pas seulement à faire ce qui nous fait plaisir et à se faire plaisir, ça consiste à voir ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, là où on est. Et pour cela, ce n'est pas seulement soi qui décide, ça se fait par des rencontres. Et ce n'est pas des rencontres d'interdépendance, mais c'est des rencontres où on voit ce qu'il y a lieu de faire. Donc, comment ça se passe? Eh bien, entre des besoins qui existent et puis les nécessités organisationnelles, les fonctionnements et la capacité et la vocation plus profonde de chacun s'articule ce qu'il sera invité à donner. Alors, la vocation du père Kim, la peinture, l'actualité. Vous le savez, vous voulez que je vous dise sur l'actualité de la peinture ce que Couturier disait. Si on avait confié des églises à décorer à Daumier, Van Gogh, Gauguin, Cézanne, Seret, Degas, Manel, Rodin ou Mayol, si on avait trouvé un clergé français pour croire en eux, si on avait eu quelques pressentiments ou quelques respects de leur héroïque aventure, si on avait parié pour le génie, imagine-t-on ce que seraient aujourd'hui nos églises françaises. Et le père Couturier, qui aime beaucoup le père Kim, c'est pour ça, mais dont il s'inspire, disait que il y a une très grande tragédie à ce que l'on perde la classe ouvrière, mais que d'avoir perdu les artistes était une tragédie encore plus grande. Donc, l'actualité, la mission, c'est ça. Il vaut mieux qu'on me demande de faire de l'édition et de gérer une petite entreprise et qu'on demande au père Kim de peindre plutôt que le contraire.
Donc, beaucoup de communication et beaucoup de compréhension par rapport aux talents de chacun, chacune.
Et il faut le faire se croiser avec l'actualité, les enjeux et ce en quoi c'est un service et non pas, je ne sais pas si le père Kim est d'accord avec ma manière d'exprimer les choses. Vous savez, on m'a mis dans une maison d'édition, je ne suis pas formateur, c'est sans doute par grande sagesse.
Oui, oui, il y a des choses que vous ignorez, c'est que les missionnaires européens, ils ont l'esprit extraordinaire, mais ils n'ont pas été formés de bon goût. Alors, le triomphe de mauvais goût dans le monde asiatique, c'est incontrôlable, c'est terrible, terrible.
Alors, pour la préparation de cette émission, j'ai découvert la vie, votre vie, Père Kim, dans ce livre, qui est paru également aux éditions du Cerf, dans la collection L'Histoire à Vif, Kim Enjong, peintre de lumière, écrit par Jean Tullier. Alors Jean Tullier est neuropsychiatre, pharmacologue, il a dirigé l'hôpital Sainte-Anne, il est rentré en littérature sous l'égide de Roger Caillois, il a été l'auteur par la suite de nombreux ouvrages. Comment est-il rentré en relation avec vous, Père Kim, Jean Tullier?
Et Jean Tullier, est non seulement il est psychologue, mais il était grand amateur de l'art. Alors, il avait une grande propriété tout près de Vence. Alors là, j'ai une galerie qui s'appelle Galerie Alphonse Chave. Il fréquentait là-bas. Et puis, comme c'est un homme très curieux, en bon sens de mots, et on s'est rencontrés et le directeur a proposé d'écrire un texte. Et aussi, je ferai la lithographie. C'est le premier livre lithographique réalisé avec Jean Tullier. Et plus tard, le père Céd avait la bonté de publier un livre biographique.
Voilà, retraçant votre parcours et votre vie, j'ai trouvé particulièrement passionnant cet ouvrage dans le fait que vous êtes replacé, Père Kim, dans le contexte de votre naissance, de votre développement, de l'apparition de vos choix, etc., pendant toute votre vie en Corée, donc des années très déterminantes en ce qui concerne votre vocation artistique et religieuse. C'est ainsi que ce livre nous rappelle l'histoire politique de votre pays, la Corée, pays du matin calme, qui a vécu des années très difficiles sous l'occupation japonaise depuis le début du XXe siècle, c'était dans les années 1905. Bon, il faudra attendre ensuite le 15 août 1945, après Hiroshima, Nagasaki, pour que les Japonais soient vaincus par les Américains et qu'ils quittent le pays. Donc la reddition sans condition du Japon et la libération de la Corée. Et ensuite, une nouvelle guerre fratricide. Voilà, alors votre village natal s'appelait Hagan.
Hagwan, oui.
Hagwan, oui. Je prononce bien. Votre père s'appelait et s'appelle Kim Yeonduk.
Oui.
Et votre mère, Shin Sojo.
Oui.
Et vous êtes né, vous, le 10 septembre 1940.
Oui.
Par rapport à ces souvenirs d'enfance, j'avais noté plusieurs citations vous concernant. Il y avait, vous savez, lors de votre premier anniversaire, vous nous racontez que la tradition en Corée n'est pas à donner aux enfants à souffler la bougie d'un gâteau d'anniversaire. On la table avec des choses significatives, des fruits, un bol de riz avec des baguettes, de l'argent, un livre, un écheveau, de fil. Et selon ce que l'enfant va prendre et ce vers quoi il tendra la main, on connaîtra son avenir.
Oui, c'est très poétique.
C'est très poétique, beau, mais vous vous en souvenez? Oui. Donc, alors, vous n'avez pas saisi la monnaie. Vous n'avez pas mis la main sur le livre. Donc, sans quoi, si on saisissait la monnaie, il sera riche, banquier ou je ne sais quoi. S'il met la main sur le livre, une carrière libérale de professeur ou d'avocat. S'il choisit le fil, vivra longtemps. Mais pour vous, dédaignant les objets concrets, déjà, qu'on avait choisis à votre intention, vous, petit Kim, vous avez tendu la main vers la lueur vacillante de la lampe à huile. Déjà, la lumière était là. Vous avez tendu votre petite main. C'est magnifiquement symbolique. C'est votre maman qui vous a raconté ça? C'est
oui.
Votre mère?
Oui.
Alors, vous nous dites évidemment que pendant toute cette enfance, il y a eu la faim, mais il y a eu aussi l'affection des vôtres. Vous avez été entouré de 7 frères et sœurs, 5 garçons et 3 filles, donc 8
ça, oui,
à la
huit.
Fin.
Nous
8.
Étions 8, oui.
Et avec une affection toute particulière pour l'une de vos sœurs qui vivra en Europe aussi avec vous.
Oui, et elle est partie aujourd'hui.
Elle est partie. Et son prénom, c'est
Kye-jung. Alors, et comme elle est professeure et elle a 50 quelques années, alors je ne l'appelle pas le nom, le prénom, je dis seulement Kye. Elle s'appelle Kye-jung, Kim Kye-jung, mais j'appelle seulement Kye.
Donc, une enfance dans un petit village, tant qu'on n'a pas pris conscience de son dénuement, écrivez-vous, on n'est pas victime de la pauvreté. Donc, il y avait cette chaleur familiale, mais des conditions difficiles de vie.
Et heureusement, et il y avait l'échec économique de mon père. Sans cela, j'aurais été peut-être milliardaire coréen et j'aurais été attaqué par mes frères et sœurs pour l'héritage, comme en Europe, partout. Mais heureusement, j'ai commencé littéralement comme mendiant. Et cela m'a fait très belle expérience. Pour ça, toutes tes grâces.
Sur le plan humain?
Parce que sans ça, j'aurais été roulé sur l'or. Ça ne m'intéresse pas.
Il y a aussi un épisode terrifié par le décès de votre grand-père. La peur de la mort, c'est quelque chose que, petit, vous avez ressenti.
Depuis toute mon enfance, j'étais terrifié par la notion de la mort. Surtout la cérémonie qui donne pessimisme, si vous voulez.
Votre angoisse devant la mort, Père Kim, est bien rapportée, bien exposée par Jean Tullier qui vous a consacré un livre aux éditions du Cerf, Kim Enjong, peintre de lumière, l'histoire à vif. Jean Tullier écrit « Toutefois, une seule chose avait terrifié Kim dans son enfance, ce fut le décès de son grand-père, survenu dans la maison familiale. Cette terreur de la mort était apparue chez Kim en raison des cérémonies tragiques et pénibles et de la foule de superstitions qui entourent et accompagnent les funérailles. Il avait été d'abord surpris par les cris des parents et leurs lamentations stridentes, alertant les maisons voisines. Puis toute la famille, vêtue d'amples vêtements, chanvre blanc, habillait également de blanc le défunt, auquel on coupe les ongles, on rase les cheveux. La visite et le défilé des amis et de la famille, de la petite collation qu'on leur offre, l'avaient aussi troublé. Mais ce n'était ni la longue procession jusqu'à la tombe, ni les tablettes rituelles, ni la sépulture dans le cimetière des ancêtres qui l'avait le plus accablé, mais deux étranges et mystérieuses coutumes qui l'avaient rempli de perplexité et d'une indéfinissable inquiétude. D'abord, les souliers du défunt, qui de son vivant n'avait jamais franchi le seuil de la maison, étaient exposés, bien en évidence, devant le paravent cachant le lit mortuaire. puis l'empressement avec lequel toutes les femmes de la famille s'étaient mises à boucher tous les orifices de la maison, trous, conduits de cheminée, pour se protéger des incursions intempestives d'esprits malveillants venant ensorceler la famille. Aussi irréels que les contes que lui chantonnait sa mère pour l'endormir, ou que les chœurs des jeunes paysannes réclamant l'eau du ciel pour les rizières, les cérémonies des funérailles étaient d'abord pour Kim aussi incompréhensibles que ces repas que l'on servait encore aux défunts les 3 jours qui précédaient ses obsèques. Et donc, Père Kim, il a fallu attendre votre découverte de la foi et votre entrée en religion pour que vous parveniez à maîtriser cette angoisse devant la mort et à en comprendre le vrai sens en passant par la lumière de la résurrection.
C'est ça ce qui est vraiment intéressant, c'est la lumière ressuscitée.
Et cette lumière ressuscitée, justement, vous en prenez conscience, vous nous racontez, il y a une très belle anecdote rapportée toujours par Jean Tullier dans ce livre paru aux éditions du Cerf, un livre qui vous est consacré, Père Kim. Jean Tullier écrit, c'était au cours de l'une de ces journées, vous vous souvenez, Père Kim, où toute votre famille vous cherchait un peu partout, car vous étiez un petit garçon très mobile, qui aimait beaucoup se rendre à l'étang pour pêcher, etc. Et donc, on finit par vous retrouver, vous étiez parti dans la campagne, rejoindre des paysans au travail pour les moissons, vous alliez porter des javelles mûres que les hommes avaient coupées à la faucille, et voilà, et vous aidiez les femmes à confectionner, à lier les bottes qui sont tassés sur le remblai près des plantations, près des plantations de soja et de sésame. Et au cours de l'une de ces journées, vous expliquez que vers le soir, entre 2 nuages, s'était glissé un rayon du soleil couchant, dont la lumière dorée, frappant la surface cuivrée de la rizière, avait produit un éclat si fortement impressionnant pour l'enfant que vous étiez, que vous vous êtes immobilisé dans une sorte d'état hypnotique dont vous vous êtes souvenu très longtemps après. Et vous expliquez et vous dites « Cela n'avait rien de mystique, dites-vous. Je n'étais ni en extase, ni transporté par une hallucination quelconque, mais je venais, pour la première fois, je crois, de faire la connaissance des couleurs. Dans la maison de mes parents, les habits colorés des personnes de ma famille, il y avait des couleurs vives, des aliments aussi, fruits et légumes de notre nourriture quotidienne. Mais cela ne m'avait pas frappé. Or, ce jour-là, tout à coup, entre le bleu du ciel, la verdure de la campagne et la chaleur dorée des rizières, l'éclat fulgurant du soleil perçant entre les nuages me fit vraiment découvrir qu'il y avait sur terre, dans la nature, des moments où la lumière était aussi indispensable que le fait de respirer ou de se nourrir. Et vous avez été très impressionné par cette vibration de lumière.
Oui. Vous savez, comme le mystère trinitaire, déjà la grâce divine, prépare partout. Et quoi qu'il soit, la forme religieuse, ici et là, il y a toujours une espérance d'autres mondes, n'est-ce pas? Mais toujours c'est légendaire. Mais pour moi, ce qui est vraiment le plus important, le Fils de Dieu s'est fait homme. C'est là, tout, la clé est là.
Vous parliez d'images, et justement, le spectacle des images mobiles que le cinéma a porté, vous avez été tout à fait interpellé, vous avez été passionné par ces images qui bougeaient, qui représentaient des choses.
Ah oui.
Le monde du cinéma vous a beaucoup parlé, vous étiez très interpellé par ça.
Oui, puisque c'était la première fois. Il avait une sensation.
Oui, vous écrivez, je n'avais jamais vu de livres, ni de journaux, ni d'images en couleur dans mon village.
Même pas lampe.
Même pas de lampe. Alors ça, c'est une sorte de révélation pour vous. Ces images, certes profanes, mais des images avec de la couleur et qui vous interpellaient.
C'est la beauté de la création du monde aussi.
Votre père était calligraphe par son métier. Oui. Donc déjà, il y a eu quelque chose qui vous a été peut-être transmis au niveau du sens de l'esthétique.
Cela, oui. Et surtout au niveau de bon goût. Ma mère avait très, très bon goût.
Alors donc, vous avez des moments difficiles aussi avec la guerre fratricide entre ces deux Corées. Un passage au service militaire pendant plusieurs années, je crois. Vous avez été sous-lieutenant.
Oui.
Mais ce qui ne vous a pas empêché de continuer de dessiner et de continuer de pratiquer votre art.
Pas beaucoup, mais déjà en esprit, en pensée.
Alors, comment est venue cette idée, alors vous le dites, que vous étiez en quelque sorte marié avec votre peinture. Comment est venue et à quel âge est venue cette vocation religieuse?
Comme je vous l'ai dit, c'est la providence. Parce que sur le plan attesté, j'avais toujours aimé de créer quelque chose. Parce que notre vie ne doit pas quelque chose méthodique.
La calligraphie ne vous convenait plus, c'était pas assez créatif.
Oui, même encore. Et souvent, quand on copie sur l'engin, on est applaudi. C'est pourquoi moi-même, je découvre combien j'ai bien fait d'être venu en Europe.
Comment ça s'est passé familialement? Vous ne l'avez pas dit tout de suite à vos parents que vous souhaitiez devenir prêtre? Le choix du catholicisme n'était pas une chose évidente en Corée?
Oui. Parce que,
comme vous rompiez là aussi avec votre tradition familiale.
Oui, et c'est dans tout le sens du mot, j'ai bien fait d'être venu en Europe. Si j'étais en Corée, devenir prêtre, ça aurait été aussi très difficile parce que j'avais déjà 27 ans, parce que le système de l'école asiatique, c'est très hiérarchisé. Alors, étudier avec des garçons un an plus jeunes, c'est très gênant. Par exemple, même je suis très sensible à cela, et vous dites facilement tutoiement, n'est-ce pas? Et pour nous, quand on a un an plus âgé, on a le droit de tutoyer aux plus jeunes, mais les plus jeunes, s'ils tutoient à aînés, c'est une provocation, c'est blessant. Et ça, c'est un détail, mais comme j'étais fils aîné et mes parents, surtout dans une situation tellement difficile, leur souhait, c'est que je réussisse pour mon métier, pour nourrir la famille. Alors j'ai quitté pour ça mon départ pour l'Europe. Pour eux, c'était un très grand sacrifice, mais ils ont été très, très gentils. Mais très curieusement, aujourd'hui, j'ai calculé ce matin, j'ai offert au moins 13 000 messes. Depuis mon ordination aujourd'hui, c'est le 35e anniversaire de mon ordination. Je voulais pas dire.
Aujourd'hui, c'est magnifique, c'est
oui,
symbolique.
Dès aujourd'hui, jusqu'à la rencontre de mes parents, en arrivant, et mes parents m'ont demandé « Ah, maintenant que tu es venu, il faut te marier. »
Il faut te marier, prendre un travail sérieux, qu'est-ce que tu comptes faire? Et c'est là où vous leur avez annoncé.
Oui, et même pour mon ordination, il y avait à peine 50 personnes. Comme si c'était pendant la guerre, parce que mes parents ne savaient pas. Alors, et même, j'avais la grâce de baptiser mes parents.
Voilà.
Ça, c'est quelque chose.
Ça a été quelque chose de certainement très, très fort. Donc, ce sont vos parents qui vous ont demandé le baptême. Donc, ils ont déjà réagi de façon positive à l'annonce du fait que vous souhaitiez entrer dans les ordres.
Vous savez, comme la parabole de semences. Et mes parents étaient très consternés, déçus, mais il y avait l'entourage, quelques catholiques qui l'ont consolé, puis ils ont dit « c'est un honneur, et nous essayons d'avoir dans la famille un prêtre, mais nous n'arrivons pas, mais vous avez reçu gratuitement des choses comme cela ». Et petit à petit, ils sont acceptés. Par ailleurs, le père Avril m'a dit « je n'ai jamais vu que le fils baptise ses parents ».
C'est magnifique. Donc la gratitude et le remerciement, oui, c'est quelque chose que vous pratiquez à chaque seconde
partout,
de votre vie.
Partout, ici et là, le merci, le ciel. Même si je suis dans la détresse, merci. Parce que et même si on est malheureux, comme Dieu est parfait, pour ça, il faut toujours demander que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Mais vous nous confiez dans les pages de ce livre que finalement, la voie chrétienne, c'est celle que vous avez suivie tout au long de votre vie sans savoir que c'était la voie demandée par le Christ.
Insondable, oui. Pour ça, quand je viens en Corée, mes élèves au petit séminaire, dont deux évêques actuels, ils sont très impressionnés pour me voir, puisque quand j'étais arrivé pour les enseigner, j'étais non-croyant.
Et alors, mon père, vous qui avez traversé des épreuves dures, qui avez assisté aux conséquences de guerres lourdes,
oui,
et par rapport à votre foi, Comment est-ce que toutes ces épreuves, et pourquoi toutes ces épreuves nous sont données dans cette vie? On a l'impression que votre foi est tellement grande, tellement belle, que vous vivez en quelque sorte un peu sur une planète de création, une planète... Mais vous restez ouvert à l'écoute des problèmes que toutes les générations connaissent les unes après les autres. Par rapport au malheur de l'homme, quel sens donnez-vous au sens de la vie, au sens que...
Je dirais, et surtout, ce qu'il faut éviter, il ne faut pas être fanatique. Parce que quand on est fanatique, ça devient très mauvaise influence. Je crois que la religion, c'est avant tout le sens humain. C'est-à-dire, et admettre, on est créature devant le Créateur. Donc, nous n'avons aucun droit de agir contre le Créateur. Dans ce sens-là, il faut tout le temps remercier des gens qui n'ont pas connu qui était le Christ, comme mes grands-parents, n'est-ce pas? Et bien d'autres. Et je pense que comme Dieu est parfait et bon, il va tout embrasser.
Merci, Père Kim. Alors, messieurs, donc, quels sont les prochains projets?
Les prochains projets, nous allons organiser une présentation de vitraux de la Renaissance. C'est notre prochain projet pour l'année prochaine. Donc on va retrouver une époque qui a été la grande aventure de la lumière dans les siècles passés.
Et ce sera à Chartres?
Ce sera à Chartres, bien sûr. Et je dirais, j'ai beaucoup entendu le Père Kim parler de la grâce. Et c'est vrai qu'on ne peut que penser à Saint Bonaventure qui définit très bien la grâce comme ce rayon de lumière qui perce l'homme et qui donne la chaleur et la vie. Et là, on a vraiment en plus un père, un artiste qui lui va manifester cette lumière et va la transmettre. C'est l'œil qui nous permet de voir à travers l'invisible.
Oui, mais là, vous nous décrivez, Jean-François Lagier, exactement ce qu'est un vitrail.
Oui, voilà pourquoi, dans son mouvement naturel d'artiste, le Père Kim a commencé par placer des pigments colorés sur une toile pour oublier cette couleur qui cache, hein, parce que c'était aussi un débat au Moyen-Âge. La couleur, elle, soit elle est matière et elle cache, soit elle est lumière et dans ce cas-là, elle illumine. Elle illumine physiquement et elle illumine spirituellement. Et il était naturel que pour un artiste aussi impressionnant, on puisse faire ce cheminement pour nous montrer la vraie lumière, la lumière réelle, la lumière dont on se nourrit à travers la matière du verre.
Nicolas Jancède, vous saviez que nous fêterions aujourd'hui ensemble un anniversaire?
Alors, je ne savais pas qu'on fêterait aujourd'hui le 35e anniversaire de l'ordination du Père Kim. Je dois vous confesser que je suis très très mauvais pour les anniversaires. Même mes filleuls, mes proches, régulièrement, il y en a qui ont un anniversaire quelques jours avant moi, et en général, je m'aperçois que j'ai oublié de souhaiter le leur lorsqu'ils me téléphonent pour souhaiter le mien. Mais je sais que prochainement, il y aura de grands anniversaires, y compris pour le Père Kim, puisque vous l'avez dit, il est né en 1940, donc ce sera bientôt son 70e anniversaire. Alors vous demandez ce que sont les projets à venir. Je ne crois pas que je peux les dévoiler maintenant, parce qu'ils sont nombreux.
Des secrets d'édition.
Et ils sont, non seulement d'édition, mais de travail avec le Père Kim. Ils sont nombreux, surtout que le Père Kim, on a parlé aujourd'hui du vitrail, mais il est peintre. Mais aussi, depuis un certain temps, il a travaillé dans la céramique. Il a toute une œuvre maintenant dans la céramique. Et puis, il a même toute une œuvre d'église, des chasubles sur soie qui sont très très belles, extraordinaires. Et il a aussi fait beaucoup de lithogravures. Alors, je ne vous dirai pas ce que sont les grands projets d'avenir du Père Kim, parce que ce serait long, mais je vais quand même vous faire la
révélation
d'un petit projet qui est une très grande œuvre. C'est la première mention publique de ce projet que je fais, mais sur Canal Academy, c'est possible, puisque c'est un livre, une sorte de portfolio, mais sous forme d'un livre, avec boîte. Vous avez dit, pour commencer l'émission, il y a en quelque sorte trois dimensions de la personne du Père Kim, l'Asie, la peinture et la transcendance, si je peux dire, par rapport à la culture asiatique, eh bien, il va y avoir un portfolio qui va sortir dans quelques jours pour un autre anniversaire aussi que le sien, qui est 70 ans du Père Kim, mais 80 ans d'une autre figure très éminente de notre culture aujourd'hui. Il s'agit de François Cheng, et donc dans un portfolio qui donnera lieu aussi à un petit livre. Ce sont 24 poèmes de François Cheng et 8 lithogravures du Père Kim, où il donne quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre, mais j'ai été témoin du fait que eux parlent de quelque chose qu'ils ont vécu. Ça s'appelle « Vraie lumière, née de vraie nuit ». Et c'est la rencontre, plus que la rencontre, de cet itinéraire qui est mystérieux pour nous. Voilà.
Père Kim, merci de votre présence. Jean-François Lagier, merci de nous avoir accompagnés. Et Nicolas Jancède, un grand merci à tous les trois. Et puis alors, tous les vœux de Canal Academy accompagnent vos projets et vos très belles réalisations.
Merci beaucoup.
Et on peut dire vive la lumière, Père
oui,
Kim.
Surtout, puisque nous devons renouveler toujours notre baptême. Nous sommes nés chaque jour, donc il ne faut pas fêter l'anniversaire. Tous les jours, c'est l'anniversaire.
Tous les jours, c'est l'anniversaire. Merci. Au revoir.